On parle d'aluminium dans le Berry républicain, cher Claude Ascolovitch.
Avec Léa, un titre de une qui donne le vertige quand nous sommes plongés dans la commémoration de la Grande Guerre. La nouvelle stratégie de ThyssenKrupp annonce donc le Berry républicain, car le géant allemand, ayant cédé son usine de la rue Louis Mallet à Bourges, investit sur son site de l'allée François Arago, qui transforme des produits aluminium non ferreux et embauche des talents qui savent manager. Parfait. Mais il reste ceci. ThyssenKrupp associe des noms d'acier qui, il y a un siècle, étaient les noms mêmes de l'ennemi, singulièrement Krupp, dont les usines fabriquaient le canon démoniaque dit la Grosse Bertha, et aussi les Pariser Kanonen qui arrosaient notre capitale en 1918. Mais un siècle plus tard, Krupp est la bonne nouvelle du béret républicain. Le temps a passé. Il est des entreprises dans l'histoire. L'équipe se souvient qu'elle s'appelait jadis l'Auto et raconte le char Renault FT modèle 17 qui fut l'engin blindé des batailles de 1918 et aussi la torture de nos ancêtres dans une coque surchauffée et saturée de poison et de bruit. Mais pour l'ennemi allemand, une attaque par les chars avait quelque chose de démoniaque. Comment ressentir l'enfer et où sont les mots des damnés? On parle de Maurice Genevoix ce matin, écrivain, combattant, promis au Panthéon et dont la croix montre le buste de bronze devant la mairie des Éparges dans un département, la Meuse, dont les sols, me dit Le Monde, sont encore empoisonnés du métal et de la chimie de la guerre. Aux Éparges, en 1915, des milliers périrent et le lieutenant Maurice Genevoix en sortit invalide. Il en forgea Ceux de 14, un livre aux 250 personnages, épais comme un roman russe, écrit Le Figaro, à la majesté de marbre, insiste-t-il, comparable aux Héléniques de Xénophon sur la guerre du Péloponnèse ou aux commentaires de César sur la guerre des Gaules.
Et on peut lire Genevoix dans les journaux.
Ce qui est une grâce, ainsi dans Le Figaro, qui publie ce texte d'une sérénité troublante. En février 1915, juste avant la bataille, le lieutenant Genevoix marche seul sur la route de Verdun, entre les taillis sombres où se cachaient tant d'hommes endormis, et il prend un crayon pour écrire. Peu de mots, très peu, rien que les mots nécessaires, ce qu'il faut que j'ai écrit, quoi qu'il doit arriver demain. Libération, sur son site, raconte les écrivains combattants d'Orgelès, des Croix de Bois, Barbus du Feu, qui était enragé contre cette grande boucherie. 30 millions d'esclaves jetés les uns sur les autres par le crime et l'erreur lèvent leur face humaine. Et donc Maurice Genevoix, qui fut après la guerre un écrivain du terroir au Vernel dans le Loiret et un vieillard de tendre moustache, vous verrez sa photo. Il est dans nos vies, des hasards qui n'en sont pas. On redécouvre dans nos journaux que le gendre de Genevoix s'appelait Bernard Maris, qui avait fait vivre son souvenir. Bernard Maris, économiste et écrivain, mort le 7 janvier 2015 dans l'attentat de Charlie Hebdo. Et ceci me revient quand Philippe Lançon, survivant de Charlie, est couronné du prix Femina pour un livre, Le Lambeau, où il décrit la mort de son ami Bernard Maris. Il décrit aussi son retour à lui d'entre les morts. Le Monde voit dans Le Lambeau une œuvre majeure. Lançon hisse chaque évocation intime au niveau d'une méditation universelle. Son visage défait exhibe tout ce que nous ne voulons pas regarder en face. Ses souvenirs d'enfance ressemblent déjà à nos souvenirs de guerre. Il n'est pas de hasard et Lançon le comprend, poursuit Genevoix, qui racontait ainsi sa blessure d'avril 1915. C'est sur le site de Libération. Je suis tombé un genou à terre, dur et sec, un choc a heurté mon bras gauche, il saigne à flots saccadés. Je voudrais me lever, je ne peux pas. Mon bras tressaute au choc d'une deuxième balle et saigne par un trou. Ma tête s'incline et sous mes yeux, un lambeau d'étoffe saute au choc mat d'une troisième balle. Le lambeau de Lançon et le lambeau de Genevoix. Lisez encore, c'est sur le site de l'Obs, un très beau texte de Jérôme Garcin qui souligne la précision chirurgicale qui est désormais l'art de Lançon. Garcin a lu avant nous le nouveau texte de Lançon qui sera publié par la Nouvelle Revue Française le 15 novembre. Il est consacré à la mort de son père qui, après l'attentat, venait à l'hôpital embrasser son fils sans mâchoire ni voix et qui, quelques mois plus tard, était veillé par lui. Philippe Lançon se raconte coupant la barbe blanche de marin de son père. En taillant, je l'imaginais silencieux sur le pont d'un cargo. Le ciel était bleu, l'air était doux. J'étais son fils et son barbier. Il reste de nos morts des mots.
On parle aussi d'Amérique, Claude, d'Amérique dans les journaux.
Mais après tout cela, évidemment, les unes illustrées de Donald Trump exaltent la banalité presque vulgaire des avant-papiers quand tout est dit des enjeux des midterms et même la rupture entre une grand-mère trumpiste et son petit-fils homosexuel dont le Figaro ne parvient pas à nous émouvoir. On en reparlera de l'Amérique après le vote. On reparlera aussi de l'abandon des pauvres de Marseille au lendemain de l'effondrement de deux immeubles vétustes qui ont enseveli 10 personnes et la Provence le raconte dans les mots du désarroi. roi. On reparlera de la colère du carburant et du dérèglement de nos sociétés quand le Parisien raconte ces pirates des pompes qui sévissent dans l'Oise et qui savent, grâce à une télécommande qu'on achète sur Internet, déverrouiller les pompes à essence pour alimenter le marché noir. Voilà nos agitations dans un monde que nous croyons posséder. Sud-Ouest raconte la dune du Pilat, où il y a 3000 ans, des hommes récoltaient du sel dans des pots de céramique. Usbek Erika raconte un jeune Américain qui, écoutait ça, a posté sur Twitter, en un seul tweet, toutes les œuvres de Shakespeare, les œuvres complètes de Shakespeare, encryptées et dissimulées dans une image du vieux maître. C'est bien expliqué, simple comme la jeunesse qui croit à l'éternité. Il suffit de cliquer et vous avez des mots, des mots, des mots.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.